Je trouve que les enfants ont très bien joué la pièce de Noël. On va encore les applaudir très fort. Ça a été formidable. Viens qu'on te voit aussi, tu as tellement bien lu. Viens. Viens t'asseoir ici, à côté de Lorraine. Je voudrais aussi quand même qu'on reconnaisse le beau travail de Lorraine, qu'elle fait ça depuis des années pour former les enfants, puis les parents qui l'ont appuyé. Je voudrais qu'on les applaudisse très fort aussi. Alors moi, avant de commencer, je vais parler aux enfants. Et puis quand j'ai fini de parler, vous pouvez dormir. Après, je vais parler aux autres. Hein? Ouais. Regardez, là j'ai vu des bergers qui étaient là, qui annonçaient la bonne nouvelle et qui ont reçu le message de l'ange. Mais là, les bergers, quand ils sont partis à la crèche, ils étaient accompagnés du petit Jonathan. Alors, ils entrent dans la crèche, ils entrent dans l'étable et Jonathan regarde le petit Jésus regarde Jonathan. Et puis Jonathan regarde autour de lui, il a vu que le berger avait des cadeaux, il a vu que le roi mage avait des cadeaux, il commence à pleurer. Alors le petit Jésus demande, mais pourquoi tu pleures, pourquoi tu verses des larmes? Lui dit, ben, je n'ai rien apporté, je n'ai pas apporté de cadeaux pour toi. Et Jésus lui dit, mais c'est rien, voyons donc. Mais sais-tu, tu peux m'offrir quelque chose de toi. Ah oui, dis-moi, tout de suite, je vais te donner. Il dit, je voudrais que tu m'offres le devoir que t'a donné, que t'a remis ton enseignante aujourd'hui. Et Jésus l'a dit à voix basse, parce qu'il ne voulait pas que les autres entendent. Il a chuchoté. Alors, Jonathan l'a surpris. Il s'avance. Et à l'oreille de Jésus, il dit, mais tu sais que mon professeur a écrit insuffisant. Alors Jésus dit, c'est pas grave, moi je suis né pour ça. Tout ce qu'il y a d'insuffisant dans ta vie, apporte-le-moi. Tout ce qu'il y a d'échecs dans ta vie, de mal faits, de mal accomplis, apporte-les-moi. Je vais te les arranger. Puis je veux encore un autre cadeau, parce que j'en veux trois de toi. Lequel? Je voudrais que tu m'apportes maintenant le pot de céréales que tu as utilisé au petit déjeuner aujourd'hui. Alors Jonathan, gêné, il dit, mais tu sais que je l'ai cassé. Oui, oui, tout ce qu'il y a de cassé dans ta vie, tout ce que tu as cassé dans ta vie, apporte-le-moi. Apporte-le-moi. Je vais te les arranger, je vais les recoller, puis je vais te les redonner. Tout ce qu'il y a de déception dans ta vie. Tout ce que tu as brisé, tout ce que tu as jeté, apporte-les-moi, je vais te les arranger, c'est pour ça que je suis né. Mais le dernier cadeau, c'est quoi? Il commence à être découragé un peu, c'est quoi le troisième, le dernier? Il dit, je voudrais que tu m'apportes la réponse que tu as donnée à ta mère quand elle t'a posé, comment est-ce que le pot s'est cassé? Parce que lui, il avait raconté, ben, c'est tombé comme ça, c'est ma petite sœur qui l'a poussé. Alors que c'était lui, Jonathan, qui l'avait cassé. Alors, il dit à Jésus, mais tu connais la réponse, c'est moi qui l'ai cassé. Puis j'ai dit à ma mère, c'était ma petite sœur. Jésus dit, tes petits mensonges, apporte-les-moi. Tes petites menteries, apporte-les-moi. Tes petites jalousies, apporte-les-moi. Tes doutes, tes hésitations, apporte-les-moi. Tes colères, apporte-les-moi. Je vais te les arranger. Alors dis à Jonathan, ça c'est mon cadeau, je suis né pour ça, pour te donner. Quand tu viens chez moi, je te transforme, je te renouvelle, tu deviens une nouvelle petite fille, tu deviens un nouveau petit garçon. Alors Jonathan a été rempli de joie parce que le Seigneur l'a changé. Jonathan c'est qui? C'est toi, c'est moi. Maintenant vous pouvez dormir. Voyez-vous, moi je propose des ce jeu-là qu'on a vu, hein, comment on a représenté l'évangile de la naissance de Jésus avec les différents personnages, je voudrais qu'on retienne tout simplement les bergers. Pour cette année, vous pouvez oublier les autres. Quand vous reviendrez l'année prochaine, on attaquera d'autres personnages. Ouais. Alors, je vais vous parler des bergers. Regardez, les bergers, s'ils ont été capables de saisir le message de l'ange, c'est parce que les bergers dans le champ ne dorment jamais. Ils veillent toujours, ils sont vigilants, toujours, parce qu'ils doivent veiller à ce que le loup, les animaux ne viennent pas attaquer le troupeau. Alors, ils doivent rester en éveil, vigilant, éveillé tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, parce qu'ils étaient éveillés, c'est ainsi que quand l'ange est arrivé, il les a trouvés debout, il les a trouvés attentifs, il les a trouvés ouverts. Et ils ont reçu le message de l'ange. Voyez-vous, il y a une différence entre celui qui dort, celui qui fait un rêve, et celui qui est éveillé. Quand on fait un rêve, eh bien, celui qui fait un rêve est enfermé dans son monde à lui. Ce monde-là, c'est le monde du moi. C'est moi personnellement, je suis là dans ce monde fictif qui est à moi. Je suis en contact avec les personnes que je vois dans mon rêve. Je suis en conversation avec les personnes que je vois dans mon rêve. Mais autour de moi, je ne suis pas en contact avec les autres personnes. Je ne vis pas la réalité avec les autres personnes. Je suis enfermé dans mon rêve. Je suis enfermé dans mon monde avec mon propre intérêt. Un monde personnel. Par contre, la personne qui est éveillée est en contact avec les autres. Quand il entend un bruit, il regarde, qu'est-ce qui se passe? Donc, en contact avec les autres. Mais maintenant, nous autres là, les bergers nous donnent un exemple. Nous devons être vigilants, vigilantes. S'il y a tant de problèmes dans le monde, des conflits, des problèmes avec des difficultés dans les relations personnelles que nous avons. S'il y a des guerres encore ici et là, s'il y a des mésententes, s'il y a des calomnies, de la médisance, c'est parce que nous voulons nous renfermer dans notre monde personnel. Nous nous occupons de nos intérêts personnels, nous nous occupons de nos désirs, nous nous occupons de nos opinions. Nous ne regardons que nous. Il y a ce qu'on appelle le moi possessif. Alors, ça devient de l'égoïsme. On se regarde soi-même. C'est-à-dire, quand on se regarde soi-même, on est enfermé dans ce monde. On rejette les autres, on n'est pas en relation avec les autres. Et pourtant, les bergers ne dormaient pas, ils étaient éveillés, ils n'étaient pas en rêve. Nous, nous vivons comme si nous étions en rêve, parce que nous sommes enfermés dans notre égoïsme. Alors, l'égoïsme nous empêche de contacter, d'entreprendre de relations continuelles avec les autres. Voilà qu'aujourd'hui, nous sommes invités à nous réveiller, à rester éveillés, et à entreprendre des relations avec les personnes qui nous entourent. À sortir du moi possessif et à entrer dans le monde de Dieu. Parce que finalement, quand tu es réveillé, tu entres en contact non seulement avec Dieu, mais tu entres en contact avec les autres. Tu commences à dialoguer avec Dieu qui est la vérité, qui est le monde réel. À ce moment-là, tu commences à bâtir les ponts et tu commences à entrer dans ce monde où tout est appelé à faire des ponts de relations avec les autres. Alors si nous voulons suivre l'exemple des bergers, ne dormons pas. Ne faisons pas de rêves. Soyons debout, sortons du moi possessif, sortons de nous-mêmes pour entrer en communion avec l'autre. Si l'enfant de la crèche est venu, il est sorti de lui-même. C'est que Dieu a accepté de naître, de venir dans ce monde-ci. Il est sorti pour naître. Il a décidé de venir. Il a opté pour nous. Il nous a choisis. C'est pourquoi il est venu. Il est sorti, il n'est pas resté dans son moi. Alors nous autres aussi, ne restons pas dans notre moi, ne restons pas dans le monde égoïste, personnel, égoïste, familial, égoïste de cité, de ville. Sortons de l'égoïsme et commençons les relations maintenant avec les membres de nos familles, avec nos amis, avec les compagnons de travail, avec les personnes qui nous entourent. Ça, c'est le premier point que je propose pour regarder les bergers et essayer de suivre leur exemple. La deuxième chose, Regardez le berger, comment dit le texte en fait, quand ils ont reçu le message, ils se précipitèrent pour aller à Bethléem, pour aller voir la crèche, pour aller voir l'enfant. C'est que finalement, leurs occupations, ils ont mis de côté. Le plan qu'ils avaient, mis de côté. Vite, il faut répondre, aller tout droit, suivre le message de l'ange. C'est que ça veut dire que le message de l'ange, le message de Dieu était prioritaire. C'était le premier. Parce qu'il a parlé, ils ont voulu le faire. Alors moi, je me pose la question moi-même d'abord. Je vous la pose aussi. Est-ce que les affaires de Dieu sont prioritaires dans votre vie? Est-ce que les affaires de Dieu sont prioritaires dans ma vie? Je me pose la question aussi. Qu'est-ce qui compte? Est-ce que quand tu fais ta liste de priorités pour la semaine, où se trouvent les affaires de Dieu là? Si nous faisons attention, peut-être les affaires de Dieu se trouvent parmi les dernières choses là. Alors, les bergers, en fait, ils nous invitent à mettre Dieu au cœur du cœur de notre vie. Que, en fait, ce qui doit être vraiment urgent, ce qui doit vraiment prendre du poids dans notre vie aujourd'hui, ce sont les affaires de Dieu. C'est la spiritualité, c'est l'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain. Voilà ce qui compte vraiment. Voilà ce qui résiste, ce qui reste. Voilà, les bergers, s'ils ont voulu tout laisser tomber, c'est parce que pour eux, la priorité, c'était la cause de Dieu. C'était Dieu qui comptait d'abord. Voilà pourquoi ils ont tout laissé tomber et sont partis. Moi, chacun, chacune d'entre nous, faisons la même chose. Mettons Dieu en premier. Vous allez voir comment les choses vont changer autour de nous. Nous allons être renouvelés par cet enfant de Noël, cet enfant de Bethléem. Vous savez, il y a les bénédictins que nous connaissons, hein? Et puis il y en a ici aussi au Canada, on le sait très bien. Leur fondateur, c'est Saint Benoît, comme vous le savez. Alors Saint Benoît, qui a formé les monastères en Occident, dans sa règle, une des choses, il dit ceci. Ne mettez rien devant Dieu. Rien ne doit venir avant la cause de Dieu. En parlant comme ça, il insistait sur la liturgie. Parce que chez les bénédictins ou bénédictines, quand tu vas au monastère, ce qui prime vraiment, ce qui compte, c'est la prière, la liturgie. Ça, ça compte. Les autres choses au monastère, ça tourne autour de ça. Si les bénédictins, parfois, ils ont des vergers, ils vendent du chocolat, ils vendent cela, ça c'est secondaire. Mais ce qui prime, c'est la liturgie, le contact avec Dieu, Dieu d'abord. En fait, cette maxime-là, de la règle de Saint-Benoît, il me semble que ça vous concerne, ça me concerne. Ce qui compte vraiment, qu'est-ce qu'on peut mettre avant Dieu? En fait, faisons comme les bénédictins, comme les bénédictines, mettons d'abord Dieu en avant, et les autres choses vont venir en conséquence. Et nous saurons comment rétablir les priorités. Voilà pourquoi, en fait, aujourd'hui, je vous propose cela. Voyez-vous, il y a un grand théologien, Origène, dans les premiers siècles, parmi les premiers théologiens catholiques, chrétiens. Alors, lui disait ceci. Si Jésus est né, il s'est fait chair. Il naît aujourd'hui, il vient dans notre monde. Mais il ne naît pas en toi. Il ne vient pas en toi. Il ne vient pas dans ton âme. Il ne vient pas dans ta vie. Il ne vient pas dans ton temps. À quoi ça sert? Si Jésus naît à Noël, mais il n'entre pas dans nos vies, il n'entre pas dans notre âme, il n'entre pas dans nos préoccupations, il n'entre pas dans nos priorités. À quoi ça sert, Noël, dit-il? En fait, ce qu'il faudrait faire, il me semble, c'est encore une fois suivre l'exemple des bergers et voir comment nous pouvons accueillir aujourd'hui Jésus au cœur, du cœur de notre vie, au centre de nos vies, pour qu'il prenne, il entre dans notre temps et puis qu'il entre dans notre vie. Dernièrement, j'ai célébré certaines messes à l'école Samuel Genet, le collège. Et puis, quand je suis arrivé, on m'a présenté une étudiante. Elle était de la 12e année. Et puis, on a fait connaissance. Elle me disait que son père était haïtien, sa mère québécoise. Alors, je dis, tu viens servir la messe? Elle dit, non, moi, je n'ai jamais servi la messe. C'est parce qu'on a demandé quelqu'un pour servir. Alors, je suis venu vous donner un coup de main. Elle dit, ah, ok, on va se débrouiller. Mais elle me dit, ce qu'elle veut dans sa vie, elle, c'est rendre service toujours. Et Dieu ne sait pas pourquoi elle sent toujours son cœur qui la porte à rendre service, à être là pour les autres. Elle dit, mais est-ce que tu as pensé à ce que tu vas faire plus tard dans ta vie? Oui, j'ai déjà écrit à la cité collégiale et puis j'ai demandé d'être aide hygiéniste. Parce qu'il me semble qu'avec ce travail-là, c'est encore être avec les gens, rendre service aux gens. Moi, j'ai dit, c'est un exemple merveilleux. Quand nous laissons Jésus naître en nous, on est des services. On est là pour les autres. Il me semble que c'est un message fort pour Noël qui nous invite en fait à nous tourner davantage vers les autres. Je lisais dernièrement, peut-être que vous l'avez lu aussi dans les masses médias, dans même les réseaux sociaux, on dit, oh, il y a un monsieur à Kansas City, lui là, c'est un Père Noël, mais il est anonyme. Ce qu'il fait, il a toute une équipe qui travaille avec lui. Alors ce qu'il fait, il essaie de trouver dans la ville les familles qui sont pauvres, qui sont dans le besoin. Il se déguise, il va remettre quoi? De l'argent. Il remet des centaines de dollars, toujours. Et il le fait depuis des années. À Noël, il va donner de l'argent. Plus de 100 dollars, toujours. Il me semble que c'est une manière de partager. Je ne sais pas si vous êtes au courant, la chanson, le chant fameux de Noël, Douce Nuit, Sainte Nuit. Eh bien, ces chants-là, pour la première fois, étaient chantés en Autriche. Ça fait 200 ans aujourd'hui qu'ils célèbrent. Dans un petit village, et le jour où on l'a chanté dans ce petit village, il n'y avait pas de spécialistes, de chants, c'était tous les gens vraiment du village qui ont composé ces chants-là et puis qui l'ont chanté pour la première fois. On a appelé des gens, on a invité un organiste qui était de l'autre village. Malheureusement, le jour-là qu'on l'a chanté pour la première fois, le jour de Noël, il y a 200 ans pour la première fois, l'organiste était malade, il n'a pas été là. Alors ils l'ont chanté comme ça, sans accompagnement. Et il y avait quelques personnes qui avaient visité le village, entre autres qui étaient venues de Londres. Ils n'en revenaient pas de ces chants-là. Et petit à petit, ces chants commençaient à aller un peu partout. Pour dire, mes amis, en fait, Noël, dans son essence, c'est le partage. C'est que le bien que tu fais à Noël doit se répandre. Les Australiens, Australiennes de ces petits villages-là, ils ont partagé leur beau chant de Noël. Alors, la joie de Noël, c'est en fait le partage. Donner le meilleur de toi-même. Tu ne le gardes pas pour toi, mais tu le partages avec les personnes qui t'entourent. Voilà la signification. Alors, pour changer notre vie, voici le dernier exemple. Je ne sais pas si vous connaissez la sœur Emmanuelle. En tout cas, elle est décédée, c'est une Française. Elle était française, elle est décédée il y a quelques années. Elle a beaucoup travaillé en Égypte, aussi en Turquie. Et voilà qu'elle, elle s'occupait beaucoup des pauvres. Elle s'est dit, moi, avant de mourir, je vais écrire mes mémoires. Mais elle ne pouvait pas se décider. Elle dit, est-ce que vraiment il faut le faire ou pas? Le jour de Noël, elle est partie devant la crèche pour prier, demander l'illumination. À partir de là, elle a compris que Jésus qui est né pour nous, simple, eh bien, Jésus là veut que nous aussi, lui, elle aussi, se donne aux autres. Donc, il faut qu'elle partage ce qu'elle fait. Alors, elle s'est décidée d'écrire ses mémoires. Parce qu'elle, elle s'occupait des pauvres qu'on appelle les chiffonniers. C'était des gens qui vivaient dans les bidonvilles, au Caire. Voilà donc ce que nous sommes appelés à faire, suivre ces exemples-là, à nous être transformés. Je vais vous lire un dernier texte comme conclusion, que j'ai trouvé très bien. C'est une belle prière qui est en même temps un chant. Je l'ai beaucoup aimé, je vais vous le partager. Enfin, ça s'intitule « Noël tous les jours ». Alors il dit ceci, « C'est Noël chaque fois qu'on essuie une larme dans les yeux d'un enfant ». C'est Noël, chaque fois qu'on dépose les armes, chaque fois qu'on s'entend. C'est Noël, chaque fois qu'on arrête une guerre et qu'on ouvre les mains. C'est Noël, chaque fois qu'on force la misère à reculer plus loin. C'est Noël sur la terre, chaque jour. C'est Noël, oh mon frère, oh ma soeur, c'est l'amour. C'est Noël dans les yeux du pauvre qu'on visite sur son lit d'hôpital. C'est Noël dans le cœur de tous ceux et de toutes celles qu'on invite pour un bonheur normal. C'est Noël dans les mains de celui et de celles qui partagent aujourd'hui notre pain. C'est Noël quand le pauvre oublie tous les outrages et ne sent plus sa faim. C'est Noël sur la terre chaque jour. Car Noël, ô mon frère, Noël, ô ma sœur, c'est l'amour. Amen.